Bon réveil à tous, le journal de la rédaction par vous Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Florian, bonjour à tous. L'administration Trump doit rendre des comptes avec son chaos volontaire et son mépris de la vie humaine. C'est la demande d'un sénateur démocrate après la mort hier d'un garçon guatémaltèque de 8 ans. Il était détenu aux États-Unis depuis son arrivée clandestine dans le pays.
Comment boucler un budget malgré des sanctions américaines sur le pétrole notamment? C'est le casse-tête auquel a tenté de répondre hier le président iranien Hassan Rouhani face au Parlement.
À la une en France, les remerciements d'Emmanuel Macron aux soldats français qui permettent, je cite, aux Français de célébrer Noël en toute sécurité. Et puis focus dans ce journal sur le mal-logement en France qui concerne plus de 4 millions de Français.
Et puis la question du jour, Catherine, qui nous emmènera du côté du Liban. Pourquoi les Libanais manifestent-ils? On posera la question tout à l'heure à Sophia Amara.
Aux États-Unis, alors que le débat sur le mur voulu par Donald Trump à la frontière mexicaine fait rage, casus belli entre le Congrès et la Maison-Blanche, au point de provoquer une paralysie partielle de l'administration fédérale, plusieurs élus démocrates demandent à l'administration Trump de rendre des comptes après un nouveau drame dans un centre de rétention. Un enfant de 8 ans, originaire du Guatemala, est mort hier matin. Ce garçon était entré clandestinement aux États-Unis avec son père mi-décembre. L'état de santé de cet enfant a-t-il été sérieusement prise en compte pendant sa rétention? C'est ce que demandent plusieurs associations de défense des migrants. Correspondance à Washington de Grégory Phillips.
On ne connaît pas encore l'identité de ce petit garçon. On sait qu'il avait 8 ans, qu'il était originaire du Guatemala et que lui et son père ont été arrêtés le 18 décembre par les gardes frontières américains, alors qu'avec un groupe de migrants, ils venaient de passer la frontière pour gagner la ville d'El Paso, au Texas. Le soir du 24 décembre, l'enfant est pris de fièvre et de vomissements. Il est hospitalisé, mais meurt quelques heures plus tard. On ignore pour l'instant la cause de ce décès. Après ce nouveau drame, les associations de défense des migrants réclament une enquête rapide et indépendante sur les conditions de détention de cette famille. L'état de santé de l'enfant a-t-il été pris en compte et si oui, correctement? Il y a deux semaines, une fillette de 8 ans, elle aussi guatémaltèque, était morte à peu près dans les mêmes conditions. Le décès de la petite Jacqueline Calmaquin avait provoqué ici une vive émotion, alors que des milliers d'enfants de migrants sont toujours détenus aux États-Unis et que le projet de mur à la frontière mexicaine voulu par Trump est au cœur de la situation de shutdown, de paralysie partielle de l'administration américaine.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. De son côté, le Guatemala, pays d'origine de l'enfant qui est mort hier, va demander aux autorités américaines une enquête transparente et sérieuse sur cette affaire. Rapports médicaux à l'appui. Lui dénonce la cruauté des États-Unis pour expliquer le casse-tête que constitue le budget iranien pour l'an prochain et 2020. Le président Hassan Rouhani a présenté hier sa feuille de route budgétaire donc au Parlement à Téhéran. Le premier budget de l'Iran depuis le rétablissement des cruelles sanctions américaines, selon les mots du président iranien. Sanctions contre le secteur pétrolier, essentiellement alors que les exportations d'or noir sont la principale ressource de revenus de l'Iran. De quoi aggraver la difficile situation économique du pays, selon Ferdoun Kavand, spécialiste de l'Iran, joint par Nabila Hamel.
C'est probablement le budget le plus difficile de l'Iran depuis 3 décennies. C'est-à-dire pratiquement depuis la fin de la guerre avec l'Irak. On sait que le pétrole est le cœur battant de l'économie iranienne et en même temps le pilier du budget. Et par conséquent, le gouvernement de Rouhani ne sait pas exactement quel sera, disons, le volume des revenus provenant du pétrole durant l'année iranienne qui va du mois de mars au mois de mars. Parce que le gouvernement des États-Unis a accordé des dérogations à 8 pays pour continuer l'achat du pétrole iranien jusqu'au mois de mai. Par conséquent, après, on ne sait pas exactement combien l'Iran pourrait exporter du pétrole. L'Iran compte sur l'exportation de 1,5 million de barils par jour, donc 1 million de barils inférieur à ce que l'Iran exportait avant le retour des sanctions. Et d'autre part, on ne sait pas exactement quel sera le prix du baril vendu sur le marché international parce que on sait que c'est une mauvaise période pour le pétrole. Donc cela, c'est le point d'interrogation le plus important pour le budget de l'année prochaine, mais il y en a d'autres, surtout l'état actuel de l'économie iranienne, en particulier la récession économique. L'Iran, d'après toutes les prévisions, aura une croissance négative durant cette année et l'année prochaine.
Ferdoun Kavand, spécialiste de l'Iran, il répondait à Nabila Hamel. Nous vous en parlions hier dans ce journal. Le Soudan est en proie depuis 6 jours à la contestation sociale et politique. 6 jours de manifestations contre la vie chère, contre le prix du pain qui a triplé sur décision gouvernementale. Contestation aussi de l'inamovible président Omar El-Bashir au pouvoir depuis près de 30 ans. Hier, les forces de sécurité soudanaises ont dispersé à coups de gaz lacrymogène des centaines de manifestants qui s'étaient rassemblés pour marcher sur le palais présidentiel à Khartoum. Lui dénonçait les conditions de vie des habitants de sa région, Kasserine, dans le centre-ouest de la Tunisie, une région durement touchée par le chômage de masse, affamée et marginalisée, selon les mots d'un journaliste, Abdelrazak Zorghi, 32 ans. Il s'est immolé par le feu dans la nuit de lundi à mardi. Depuis, de violents affrontements ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre. On y revient dans le journal de 7h30.
7h06, la suite du journal avec vous, Catherine Dutu. Et c'est un record en France, une pétition contre l'inaction de l'État face au changement climatique qui a recueilli 1 700 000 signatures.
Lancée par 4 ONG, Greenpeace, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Oxfam et l'association Notre Affaire à tous, elles ont décidé de passer par la case justice pour pousser le gouvernement à en faire davantage pour la planète. Ce n'est pas dans un tribunal qu'on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, réagit ce matin François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, dans les colonnes du Parisien. Selon lui, ce n'est pas à des juges de forcer le gouvernement à prendre une loi et de rappeler que les questions sur la transition écologique, sur la fiscalité verte, pourront être abordées dans le grand débat national à venir, souhaité par Emmanuel Macron pour tenter de répondre à la crise des gilets jaunes. Emmanuel Macron qui a de nouveau remercié les soldats français qui passent les fêtes loin de leur famille et qui permettent à tout un pays de célébrer Noël en sécurité. C'était le message présidentiel préenregistré et diffusé hier soir sur France 2 lors d'une émission spéciale consacré aux militaires et présenté par Michel Drucker à Abidjan.
Je suis avec certains d'entre vous ici au Tchad, mais je pense à vous tous, que vous soyez dans le désert sahélien, au Levant, sur tous les théâtres d'opérations, sur ou sous les mers, ou encore en alerte sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle. Je veux vous remercier pour votre engagement, ce soir en particulier et tout au long de l'année. Mon deuxième message, il est pour vos familles. Vous êtes en train de passer de fêtes de fin d'année un peu particulières. Alors, je veux vous dire au nom de la nation tout entière, notre gratitude, notre reconnaissance pour cette part de sacrifice. Merci pour votre abnégation à leur côté. Et c'est toute la nation à travers moi qui vous remercie.
Emmanuel Macron sur France 2 hier soir. L'ombre d'Alexandre Benalla, toujours embarrassante pour l'Élysée. Selon le journal Le Monde, l'ancien collaborateur du chef de l'État s'est rendu début décembre au Tchad, où il aurait rencontré le frère du président tchadien, et ce, juste avant que le président ne se rende lui-même à N'Djamena le week-end dernier, Lodi Forêt.
À l'Élysée, le sujet est pris au sérieux. Nous sommes attentifs à ces rumeurs, précise une conseillère. Si ça devenait plus pressant, notre réaction serait plus forte. L'entourage d'Emmanuel Macron qui ne veut laisser aucun doute filtré. Les liens sont bien coupés, nous dit-on, avec Alexandre Benalla. Et non, il n'y a aucun intermédiaire officiel ou officieux entre la France et les gouvernements africains. Si l'ancien collaborateur s'était prévalu d'une quelconque mission en rapport avec l'exécutif, on serait indigné. L'Élysée qui pour le moment n'a pas lancé d'enquête sur ce voyage, mais qui en revanche va regarder si Alexandre Benalla, du temps de sa collaboration avec le président, n'aurait pas déjà entrepris des démarches commerciales de ce type. Alexandre Benalla qui, selon son avocate, se sentirait harcelé. Si elle confirme le séjour au Tchad, elle n'en donne pas les motifs, mais réclame que son client soit libre de réaliser ses projets professionnels sans être la cible de commentaires malveillants.
Focus à présent sur le mal logement en France. Plus de 4 millions de Français sont concernés dans des habitations précaires, parfois insalubres, toujours trop chères. L'Île-de-France est la région la plus touchée, avec près de 157 000 logements insalubres. Indigne de la France, a tenu à rappeler Jean-Baptiste Hérault, porte-parole du DAL, l'association pour le droit au logement, qui manifestait hier à Paris.
En France, le logement est le budget le plus cher pour les ménages. Et il n'a cessé d'augmenter puisque en 1973, selon l'INSEE, la part du budget des ménages consacrés au logement ne dépassait pas 10%. Aujourd'hui, il est en moyenne à 26-27%. C'est-à-dire que dans les zones urbaines, il est à plus de 30%. Et pour les ménages les moins riches, il est à 40%. On souffre beaucoup plus du mal logement en région parisienne où les loyers sont les plus chers, et donc ce qui est du pain béni évidemment pour les marchands de sommeil, puisque les ménages à bas revenus vont chercher par tous les moyens à se loger, et donc sont prêts à payer des loyers exorbitants pour se loger dans des taudis. Donc c'est le paradis des marchands de sommeil. Évidemment, la crise du logement, le logement cher, permet à des personnes mal intentionnées et qui n'ont aucun respect pour la dignité humaine de s'enrichir sur le dos des ménages les plus en difficulté.
Jean-Baptiste Hérault, le porte-parole du DAL, au micro de Sarah Cosolino. Elles aussi tentent de mettre à l'abri les plus fragiles, de soigner les corps et les âmes. L'Armée du Salut et l'Association pour la Santé des Femmes ont ouvert de nouveaux lieux d'accueil à Paris pour les femmes sans-abri. Elles seraient 12% peut-être parmi les 3000 SDF recensés lors de la Nuit de la Solidarité en début d'année. Mais ces chiffres restent largement sous-évalués car les sans-abri et les femmes encore plus se cachent parfois. D'après la mairie de Paris, 9 femmes rencontrées sur 10 ont vécu des violences, soit dans la rue, soit avant de s'y trouver. Et seule une sur 10 est actuellement suivie par un travailleur social, contre un homme SDF sur 3. En décembre, deux nouveaux lieux ont donc ouvert pour accompagner ces femmes. Leur nom, la Cité des Dames. Didier Morel y a rencontré, dans le 13e arrondissement, une jeune fille longtemps restée à la rue.
J'ai bientôt 21 ans, dans quelques jours. Je vis à la rue avec ma chienne qui s'appelle Parvati. On nous propose des choses, des fois un peu cheloues, que ce soit mariage blanc, service sexuel, ou même un mec qui a envie de t'agresser parce que t'es une femme, donc c'est plus simple. Et en plus, t'es à la rue, donc c'est encore plus simple parce que du coup, dans le regard de l'autre, t'es inférieur, t'es une cible facile, du coup, voilà. Donc ouais, c'est plus compliqué quand on est une femme. Le projet, ça va être de trouver quelque chose pour moi et ma chienne parce que c'est super compliqué quand on a un chien et en plus qu'on est une femme. Puis réussir à toucher mes mois de salaire et manger à côté, réussir à maintenir mon travail tout en étant un peu de difficulté. Puis après, quand j'aurai soit un peu d'argent, soit un garant et 3 mois de fiche de salaire, bah, je pourrais peut-être éventuellement commencer à me trouver quelque chose à moi. Puis après, vivre normal, quoi, comme tout le monde.
Marie, une jeune femme ex-SDF désormais accueillie par la Cité des Dames à Paris. Le temps de ce mercredi 26 décembre partagé entre grisaille et éclaircie, dégelé ce matin sur une très large moitié nord du pays, avec des températures comprises entre moins 4 et 0 degrés en général, jusqu'à 7 près de l'Atlantique, jusqu'à 11 près de la Méditerranée. Florian Delorme.
Merci beaucoup Catherine Dutu, on vous retrouve à 7h30.